Voilà, je m'installe, désolé. Voilà, très heureux d'être à nouveau parmi vous. Merci encore pour le bon accueil, pour l'appartement, pour les relations aussi qu'on peut avoir les uns avec les autres lors de ces séjours. C'est vraiment toujours un plaisir d'être ensemble. Nous avions cette semaine passé la pastorale de notre association baptiste à Évian. Donc on était nombreux, on était plus d'une centaine. Très très bon moment passé ensemble et vraiment beaucoup de joie de se retrouver en tant que responsable d'église, de conseil. Ça faisait 2 ans qu'on avait dû sauter cette rencontre et vraiment c'était un grand plaisir et c'est assez remarquable de voir les liens entre les uns et les autres intergénérationnels. On était très heureux aussi de voir beaucoup de jeunes présents. Des stagiaires qui sont en formation dans nos églises aussi, et c'était vraiment bien, bien encourageant. Et puis du coup, ça me donne l'occasion aussi de vous donner des salutations de la part de Nordine, donc on a bien discuté ensemble aussi, et donc qui vous apporte ses bonnes salutations. Alors nous allons ce matin lire un texte où Paul nous donne quelques indications pour une saine vie d'église. Et je vous invite à lire donc dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 27. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Paul développe l'image de l'Église comme un corps. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main », Je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Jusqu'ici, notre lecture. Paul s'adresse donc aux chrétiens de l'église de Corinthe. Ah, ces Corinthiens, ces sacrés Corinthiens. Ils étaient vraiment bourrés d'ambition, bourrés d'aspiration pour eux-mêmes, pour leur église. Ils voulaient être spirituellement grands et forts. Grands surtout par leur spiritualité vraiment spirituelle et par leur liberté. Tout est permis, déclare-t-il, fondé sur la grâce. Les chrétiens de Corinthe ne voulaient surtout pas qu'on dise qu'ils étaient une église passe-partout, une église terne, une église sans couleur. Ils voulaient être flamboyants pour le Seigneur. Ils aimaient ce qui avait du relief, ce qui sortait du lot. Et Paul aimait bien cette église un peu turbulente. Il aimait ces chrétiens qui aspiraient avec zèle aux choses de la foi. mais il n'était pas toujours d'accord avec eux sur la façon dont ils cherchaient le meilleur. À plusieurs reprises, il doit leur faire comprendre qu'ils ne prenaient pas vraiment le meilleur chemin, qu'il fallait reconsidérer un petit peu leur manière d'être et de faire. Attention les amis, votre sagesse, votre liberté ne vous conduisent pas aussi haut que ce que vous croyez. À un moment même, il doit leur dire à eux qui se croyaient sages et très spirituels, en fait, n'agissez-vous pas de manière simplement humaine, comme des hommes. Que se passe-t-il donc à Corinthe ? Sous couvert de spiritualité, de liberté, on a fait quand même quelques erreurs d'aiguillage qui risquaient de conduire à des impasses, bien loin de ce qu'on visait, bien loin de ce que l'on voulait ou prétendait être. Et ceci notamment en ce qui concerne la vie de l'Église et le rôle des uns et des autres. À Corinthe, parce qu'on voulait que l'Église sorte du lot, on avait opté pour un principe qu'on pourrait appeler la sélection spirituelle. En science, on parle de sélection naturelle. À Corinthe, c'était la sélection spirituelle. Qui sera le meilleur pour que notre Église soit la meilleure? Qui représente la spiritualité la plus prometteuse, la fidélité la plus authentique, la piété la plus profonde? Et on ne veut bien sûr que le meilleur. Et on passe au crible les apôtres, les enseignants qui ont travaillé dans l'Église, et chacun fait son choix. Et c'est ainsi que commence une impitoyable sélection. Les uns disent, moi c'est tout vu, c'est Paul qui me plaît. Il n'y a que lui de vrai. C'est lui qui nous a apporté l'Évangile. C'est lui qui nous a tout appris. Les autres affirment, mais pas du tout, vous n'y êtes pas. Le must, c'est Apollos. C'est regarder la façon dont il parle, regarder son éloquence, ses tournures de phrases, sa voix, ses gestes, sa sagesse de rhétorique. Mon choix, c'est tout vu, c'est Apollos. Là-dessus, d'autres de reprendre, mais non, mais soyez sérieux les amis, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment connu Jésus, qui a vraiment... était près de lui, qui a reçu du Seigneur la tâche d'ouvrir l'Évangile aux Juifs, aux Samaritains, aux païens. C'est Pierre, c'est lui l'authentique, lui seul. Et là-dessus arrivent quelques-uns avec des airs de sainteté et plein de pitié pour tous les autres. Comment vous en êtes encore à Paul, à Pierre, à Apollos? Mais moi j'ai choisi le Seigneur Jésus. Moi je suis de Jésus, directement. Et personne d'autre. Le principe de sélection, on choisit pour avoir le meilleur et être dans le meilleur. Le principe de sélection, pour aller loin, pour aller viser haut, je sélectionne. Je ne veux que le meilleur. Le reste, c'est tant pis. C'est ce que nous faisons régulièrement hein, pour les produits que nous achetons. On juge la qualité d'un produit, on compare aux autres, pour finalement sélectionner ce qui nous plaira le mieux et laisser le reste de côté. Les entreprises aussi ont leur comité de sélection bien assumé. Il faut recruter des personnes qui correspondent au profil de l'entreprise, qui répondent à ses besoins. C'est impératif dans cette optique de bien sélectionner. Dans l'Église, nous sommes appelés au discernement en ce qui concerne les personnes. Discerner les dons, discerner la place que chacun peut prendre, celle que Dieu lui a donnée dans l'Église et pour l'Église. Mais la logique du discernement n'est pas du tout la logique de la sélection. La logique du discernement veut trouver la place de chacun, veut trouver la place du chacun. De chacun, tandis que la logique de la sélection, elle, donne une place à ce qui est dans ma ligne et met de côté ce qui n'est pas dans ma ligne. Et ce n'est pas la même chose du tout. À Corinthe, l'enjeu affiché était certainement l'enjeu de la spiritualité et de l'excellence de l'Église. Et Paul leur avait dit, juste avant de dénoncer leur rivalité autour de Pierre, Paul, Apollos, « C'est pas comme à des chrétiens spirituels que je parle !» Ce qui montre bien qu'ils mettaient vraiment en avant ce critère « On veut une église vraiment spirituelle !» Ils mettaient vraiment cela. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est que chacun choisit et sélectionne ce qui ou celui qui représente sa vision particulière de la spiritualité. Pour moi, c'est l'un, c'est lui et pas l'autre. Et au nom d'un désir de spiritualité, on arrive à dire non, c'est ma manière de voir, c'est ma manière de considérer la spiritualité. Et le critère de sélection, et sous couvert de spiritualité, devient un critère de division, finalement, et avec des visions très particularistes de ce qu'est l'Église. Et c'est pour ça qu'on dit, moi c'est Paul, moi c'est Apollos, moi c'est Pierre, et moi c'est Jésus, bien sûr. Et je crois que nous devons avoir conscience qu'il est facile de glisser ainsi de certaines aspirations générales qui sont vraiment louables, à des choix très particularistes qui divisent et qui excluent. Quelques exemples. J'aspire à une bonne dynamique de l'Église, tout le monde est d'accord. Mais il faut absolument que les choses se passent de telle ou telle façon pour qu'on soit dans la bonne dynamique de l'Église. J'aspire à ce que l'Église témoigne. Mais le vrai témoignage, c'est comme ceci et pas comme cela. J'aspire à une bonne direction de l'Église, mais il faut absolument que ça passe par telle et telle manière de faire. J'aspire à une vie de prière pour l'Église, mais la vraie forme de prière, c'est celle que je préconise et dont j'ai le secret. C'est facile de dire, à partir de grandes affirmations générales et de grands désirs qui sont nobles, de passer vraiment de ce qui est général et de l'enfermer dans un canal complètement particulariste. C'est facile de glisser ainsi. Et c'est ce qu'avaient fait les chrétiens de Corinthe sous couvert de ce désir de spiritualité. Résultat, ils sont entrés dans une logique qui exclut, qui crée des clivages et qui divise finalement. Et l'apôtre Paul apporte plusieurs correctifs à ce genre de démarche. À Corinthe, il souligne, nous l'avons vu dans ce texte, la valeur vraiment de la complémentarité et de l'apport mutuel. Vous faites partie d'un même corps qui est riche de la diversité, riche des uns et des autres. Et c'est vraiment ça ce que Paul met en face de ces perspectives très sélectives qui étaient celles des Corinthiens. Dans une autre lettre, aux Éphésiens, il reprend la même image, mais avec une formulation particulière. Il dit « Dieu a donné les uns comme ceci et les uns comme ». Dieu a donné. Et j'aimerais qu'on s'arrête vraiment à cette expression. Dieu a donné chacun à son Église. Et ça, c'est le renversement total de la logique de la sélection. Dieu nous donne les uns aux autres. Maintenant, si Dieu nous a donné les uns, chacun à l'Église et chacun les uns aux autres, qu'est-ce que signifie ce don ? Que signifie ce don qu'est mon frère, ce don qu'est ma sœur, si Dieu nous a donné les uns aux autres ? Si Dieu nous a donné les uns aux autres, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter ? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter à tous ? Quelle place peut être la sienne ? Comment la trouver ? Comment la désirer pour lui, pour elle ? Comment pouvons-nous honorer ce Dieu, ce don que Dieu nous a fait en nous donnant les uns aux autres ? Comment honorer ce Dieu, ce don que nous représentons chacun ? Comment le préserver ? Comment faire pour que chacun se sente reconnu, se sente bien à sa place, se sent en sécurité dans l'Église, la famille de Dieu, et se sent bienvenu, bienvenu. C'est ça l'Église où Dieu nous a donné les uns aux autres. L'Église n'est pas un club sélectif où l'on se choisit, où l'on se coopte. L'Église, c'est la famille que Dieu bâtit. Dans une famille, on ne choisit pas qui est notre frère, qui est notre sœur. On s'accueille mutuellement. On essaie de former ensemble une communauté bienveillante, aimante, protectrice pour chacun. On grandit les uns avec les autres, on apprend ensemble et au contact les uns des autres, on se forme ensemble. Et ce qui est vrai de la famille, c'est pareil de l'Église. L'Église est la maison, la maisonnée de Dieu, à laquelle le Seigneur ajoute ce qu'il donne à la communauté. Et ça, c'est quand même un langage à recevoir vraiment. Nous sommes donnés les uns aux autres pour former la famille qu'est l'Église, donnée par le Seigneur. C'est un privilège magnifique, c'est quand même une exigence aussi. On s'en rend compte pour bien vivre cela. À Corinthe, on était dans une autre perspective. Et l'idée, c'était de dire vraiment, on choisit. Et on était arrivé jusqu'à célébrer la Sainte Cène d'une manière... entre gens qui se choisissaient. La scène était prise en général lors des repas, et si les repas étaient souvent pris, c'était souvent le soir. Hein. Et comme par hasard, les personnes libres, les personnes aisées de l'Église se retrouvaient entre elles, les premières. Elles faisaient de vrais festins. Et lorsqu'arrivaient les plus pauvres, ceux qui devaient travailler tard, les esclaves, il n'y avait pour eux à l'Église que les restes. Et peut-être le rangement. Et Paul dit, on voit les uns manquer de nourriture pendant que les autres s'enivrent. 1 Corinthiens 11, 21. Et Paul leur dit clairement, mais écoutez, n'appelez pas ce genre de choses le repas du Seigneur. Ça, c'est votre repas, votre choix, votre sélection, ce n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est un repas où chacun peut entendre vraiment les paroles du Christ. Du Seigneur Jésus, ceci est mon corps donné pour vous, pour toi, tu es accueilli. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous, pour toi. Parole d'accueil, de grâce et parole qui nous engage aussi les uns à l'égard des autres sur la base de cette grâce reçue. Alors à Corinthe, dans ce contexte où la concurrence peut un petit peu primer sur l'accueil, certains dans l'Église se sentent un peu dévalorisés, un peu cassés, se voient sans grande valeur, insignifiants peut-être, et peut-être des personnes à qui on leur fait comprendre qu'ils n'ont pas forcément leur place sur le plateau des meilleurs. Et Paul a le souci de ces personnes et veille à leur montrer qu'elles ont vraiment une place, une vraie place pour chacun. Elles sont importantes dans l'Église et pour l'Église. Et il a aussi un peu le souci de ceux qui voudraient un peu trop prendre toute la place, sans considérer l'utilité et l'apport indispensable des autres, sans mesurer combien eux aussi sont redevables aux autres. Et là donc, voilà une série d'affirmations qui s'enchaînent les unes aux autres pour dire un peu ces choses. D'abord, il affirme le privilège vraiment d'appartenir tous au peuple de Dieu. Nous l'avons lu, verset 1 Corinthiens 12, 13. Nous tous, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit. Et à cause de cela, nous formons un seul corps, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libres. Ce privilège vraiment d'appartenir tous au peuple de Dieu. De manière égale, ça donne vraiment une ouverture, une richesse, un souffle de liberté. Une fois qu'il a dit ça, il dit, mais écoutez, il donne un mot d'avertissement. Il dit, attention en tout cas à ne jamais réduire cela à une seule chose. À ne pas réduire. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Réduire cette diversité à un seul élément, c'est un appauvrissement. C'est une trahison du projet et du souhait de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut réduire cette richesse à un seul élément? Comment est-ce qu'on peut ainsi appauvrir le projet de Dieu? Il y a plusieurs moyens. On peut le faire par sélection. Hein, en disant, pour moi, il n'y a que cette personne qui vaille. Il n'y a que cette manière de faire, il n'y a que ce profil. Tout le reste, on l'écarte. On appauvrit le peuple de Dieu de cette façon-là. On peut aussi réduire cette diversité du corps à un seul élément, je dirais par gonflement, en disant, c'est moi qui fais tout. C'est par moi que tout doit passer. Sans moi, rien ne fonctionne. C'est un peu le bibendum là de Michelin, vous savez, ou la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et c'est aussi une réduction de la diversité ordonnée que veut le Seigneur, et de la diversité vraiment qui inclut chacun. Enfin, on peut réduire aussi la diversité du corps à un élément en se dévalorisant soi-même, en disant finalement moi je suis presque rien, les autres ont une belle place mais pas moi. Comme s'il n'y avait qu'un seul service qui comptait, celui des autres, et que nous n'avons rien à apporter. Et Paul donc s'attaque à ce genre de pensée réductrice. Et il le fait d'une manière assez vivante, assez imagée, et il dit, mais si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, est-ce qu'il n'en ferait pas partie pour autant? Et on a ici un pied qui en a assez d'être pied. Il se dit qu'être pied, ce n'est pas une vie. Il se sent mal dans son rôle de pied. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a trop marché? Est-ce que c'est parce qu'il a trop porté, trop supporté toute la journée? C'est vrai que c'est quand même pas facile une vie de pied, hein, quand on y réfléchit toute la journée. Et pour peu que là-haut on décide de faire un jogging, tout d'un coup, c'est le pied qui en prend un coup quand même, hein, ou une journée de marche, faut assurer derrière. Mais Paul nous dit, c'est pas ça la raison pour laquelle le pied est mal. La raison du mal-être du pied, c'est la main. Le pied est mal parce qu'il dit, mais je suis pas une main. Et c'est tellement mieux d'être une main que d'être un pied. La main toujours en vue. La main, tout le monde la trouve si fine, si habile, si créatrice. Cette main qu'on lave, qu'on soigne, qu'on valorise avec des bagues, des bracelets. C'est à cause d'elle que le pied se sent mal tout d'un coup. Il se sent si mal dans ses baskets. Insignifiant, nul, coincé qu'il est entre les lacets et la semelle de sa chaussure. Et Paul a cette belle réponse en disant, mais le pied, est-ce qu'il ferait moins partie du corps pour autant, alors qu'il se plaint de ne pas être une main? Autrement dit, mais demandez un peu au cerveau là-haut ce qu'il en pense du pied. Réfléchissez à toutes ces situations où le pied est juste indispensable. Imaginons, s'il faut rentrer à la maison, que vous n'avez que des mains pour marcher, qu'est-ce que vous faites? Un peu compliqué quand même, hein? Nous avons besoin, les uns des autres, dans la diversité de ce que nous sommes. Nous sommes trop interdépendants pour pouvoir mépriser les uns au profit des autres, ou pour nous mépriser nous-mêmes parce que nous ne serions pas l'autre. On a trop besoin les uns des autres. Et Paul continue au verset 16, et apparemment l'oreille se fait est dans la même situation que le pied. L'oreille se sent mal par rapport aux yeux. La pauvre oreille, elle entend toujours dire « Oh ma chérie, tu as de beaux yeux !» Elle en a assez l'oreille d'entendre ça. Y a-t-il une personne, une seule, qui dise « Oh mon amour, tu as de belles oreilles !» Jamais. On n'en a toujours que pour les yeux. Ces yeux qu'on maquille toujours. Et elle, l'oreille, qui sans cesse trime, on la considère pas. On la cache même avec les cheveux. Quel bonheur ce serait d'être un œil. Et on voit ici un peu la difficulté à bien accepter finalement ce que nous sommes. On se compare aux autres pour se plaindre, pour se jalouser. On a du mal à dire, je me réjouis de la place que je peux prendre avec ce que je peux apporter. On a aussi l'impression que pour les autres, c'est tellement plus facile que pour nous. Et ça, je pense que c'est souvent quelque chose qui arrive. On voit les autres dans ce qui semble le meilleur, le plus facile, le plus honorant, et on pense toujours que pour les autres, c'est plus facile que pour nous. Mais l'oreille qui se plaint, elle ne pense pas au bonheur qu'elle apporte lorsqu'elle permet d'écouter un concert, une symphonie. Elle ne pense pas à toutes les richesses de relations qu'elle permet quand on peut s'écouter, se parler les uns aux autres. Tout ce qu'elle voit, c'est l'œil avec ce qui est plus beau, ce qui est meilleur, ce qui semble être plus valorisant. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, en tout cas, dans cette acceptation de ce que nous pouvons apporter chacun. Et il nous invite vraiment à une vision où vraiment l'unité sera riche de diversité. Et pour nous ramener à une vision plus équilibrée, il nous propose un petit exercice d'imagination. Il nous dit, tu veux être un œil, parce qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il n'y a que ça de beau. Alors maintenant, essaye d'imaginer un peu les choses. Si tout le corps était œil, puisque l'œil est si beau, si complexe, si magnifique, si tout le corps était œil, qu'est-ce que ça donnerait? Imaginons, un corps qui serait complet. Notre corps a un œil, un grand œil comme ça, vous voyez, un gros machin gélatineux là qui roule, qui essaie de rouler sa bosse comme il peut de cette façon-là. Imaginons ce grand œil qui essaierait de se déplacer en roulant là comme ça quelques mètres, un peu flageolant comme il serait là. Très vite, il dirait, mais qu'est-ce que je donnerais pour avoir une bonne paire de pieds? Imaginez notre œil qui essaye de se saisir de quelque chose, là, des clignements de paupières là, pour essayer d'apprêter le truc. Qu'est-ce que je pourrais vraiment avoir à une bonne paire de mains? Qu'est-ce que ça me ferait du bien? Et très vite, il supplierait, mais des mains! Si tout le corps était œil, ce serait grotesque. Et ce serait tellement insuffisant. Cet œil que j'envie tellement, que je trouve tellement honoré. Mais que peut-il tout seul? Et cet œil unique que je voudrais peut-être moi être tout seul en prenant toute la place, mais quelle misère, quel appauvrissement, quelle mutilation. Inutile d'envier l'autre au point de nous dévaloriser nous-mêmes. Inutile et grotesque aussi de nous gonfler de tellement d'importance que nous croyons être le seul, le vrai, l'unique. La réalité voulue par Dieu est plus grande, plus riche, même si elle est parfois plus exigeante. Maintenant, dit l'apôtre Paul, le Seigneur a disposé dans le corps chaque organe, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, si tous étaient un seul membre, mais où donc serait le corps? Où donc serait le corps? Alors c'est quoi le chemin le meilleur, le chemin par excellence? C'est la manière vraiment dont l'Esprit de Dieu a voulu l'Église. La façon dont l'Esprit de Dieu la constitue, l'enrichit. Non pas dans une ligne unique, sélective, où ne comptent que ceux qui survivent ou qui ont le bon profil. Non pas dans une pyramide où tous ceux qui sont en bas sont au service de quelques-uns plus haut. Non pas dans un groupe où chacun se bat pour se faire sa place au soleil, mais dans un corps. Un corps où il y a plusieurs organes, où chacun a sa place, où on dépend les uns des autres, où on s'enrichit l'un par l'autre dans l'interdépendance pour former finalement une unité riche et diverse. Il y a deux sortes d'unité. Il y a l'unité numérique, ça veut dire c'est un et pas plus. L'unité numérique dit, il y en a un, il n'y en a qu'un seul, une seule personne, un seul profil, une seule ligne, on veut voir qu'une seule tête. Ça c'est vraiment l'unité qui sélectionne, qui isole aussi. Et puis il y a une autre sorte d'unité, c'est l'unité organique, l'unité d'un corps, qu'il y a plusieurs organes. Un corps, oui, mais dans ce corps, chacun est riche à la fois de lui-même et des autres. Et le corps dans son ensemble est riche de chacun et de tous, et on ne peut éliminer ni l'un ni l'autre en aucune manière. L'unité numérique dit « ce qui compte, c'est moi ». Éventuellement, elle peut ajouter « ceux qui sont comme moi » ou « ceux qui sont avec moi » ou « ceux qui sont pour moi ». L'unité organique dit « ce qui compte, c'est ce que je suis, mais en relation avec tant d'autres, avec qui je suis relié, de qui je reçois, à qui je donne. » Notre unité, c'est d'être riches les uns des autres. Et Dieu aime cette richesse organique. Dieu aime cette richesse organique. Vous voyez le monde où tout est relié, interdépendant, les écosystèmes sont riches et ouverts à bien des fonctions, mais on touche à un élément, ça affecte tous les autres, mais tout est relié, tout fonctionne ensemble. Voyez notre corps, voilà, cette merveille d'unité organique. Et l'Église est construite sur le même modèle. Cette unité riche est vraiment la signature du Dieu de la Bible. Il est en lui-même aussi riche d'une unité qui est riche de diversité et de relations. Il est le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et en lui aussi, il y a cette diversité dans l'unité. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu militaire qui dit « je veux voir qu'une seule tête ». Il préfère dire « j'aime voir mon peuple quand il forme un corps, bien uni, bien divers à la fois ». C'est ça mon régal. Et je retrouve là-dedans quelque chose qui fait ma joie de créateur, ma joie d'être du Dieu qui aime la diversité dans l'unité. Alors une fois qu'on a dit tout ça, juste deux, trois mots pour dire mais comment appliquer tout cela, comment le vivre. Alors je dirais très vite, nous avons besoin d'un changement de mentalité. Il nous faut vraiment quitter cette façon réductrice qui sélectionne en fonction de nos critères, qui balaye ou dévalorise ce qui ne nous ressemble pas. Il faut pareillement lutter contre toutes ces attitudes qui peuvent envier, jalouser l'autre dans ce qu'il est, dans ce que je ne suis pas, toutes ces choses-là. Toutes ces choses doivent être converties vraiment en nous, sans cesse, pour nous apprendre combien nous sommes reliés, dépendants les uns des autres. J'y pensais un peu quand je venais dans le train pour venir à Villefranche, je me disais, mais le nombre de personnes qui sont à l'œuvre pour que moi je puisse prendre le train. Il faut un conducteur, il faut des gens qui ont entretenu les voies, il faut des gens qui s'occupent vraiment de tout le planning, qui ont fait les réparations, etc. Il y a tellement de choses. Et d'une manière générale, je veux dire, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons agir parce que d'autres aussi agissent autour de nous, parce que d'autres aussi interagissent avec nous. Et je pense que c'est bien de réfléchir assez généralement à ce genre de choses-là. On a un peu le réflexe de regarder toujours ce que nous faisons, mais rappelons-nous que tellement souvent, dans tout ce qu'une personne fait, il y a tellement de choses où d'autres interviennent aussi en même temps. Réfléchissez à chaque fois qu'on fait le culte, le nombre de gens qui sont intervenus à différents niveaux pour qu'un simple rassemblement comme ça soit possible. Changer ce regard. Garder vraiment ce regard où on se rend compte et on apprécie tellement de dire oui, il y a ce que je fais, mais ce que je fais est tellement porté par ce que les autres font et c'est ensemble qu'on peut. Ensemble qu'on peut. Donc vraiment avoir ce changement de mentalité. Notre application, c'est vraiment d'apprendre à bien dépendre, à bien cultiver le sens du bien commun. C'est vrai que dans un corps, il y a place pour une certaine indépendance. Il y a des organes qui peuvent aller dans une direction, dans une autre. On peut décider de marcher par là, d'étendre sa main par là, de regarder ici ou là. Parfois, un organe a un rôle dominant dans une situation particulière, c'est clair. Mais d'une manière générale, quand on veut vraiment faire une action précise, il faut pour l'action qu'il y ait une coordination de plusieurs organes vers ce qu'on vise. Imaginez que je vois un objet lointain que je veux saisir, je le vise avec les yeux, Mais si mes pieds disent, moi je ne veux pas aller là, je veux aller là, et si mes mains disent, au lieu d'aller saisir cet objet, je reste dans les poches, j'aurai des problèmes avec l'action que je veux entreprendre. Pardon. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment de cultiver ce sens du bien commun. Dans l'Église, pareillement, on ne peut pas agir chacun à son idée, chacun dans sa direction. Il faut nous accorder vraiment les uns avec les autres, partager les mêmes objectifs au service du bien commun. Et puis, dernière petite application, dans un corps, il est important aussi d'avoir soin les uns des autres. Paul parle de ça, de dire, voilà, on est tellement interdépendants, il faut avoir soin des autres membres du corps. Je peux très bien choisir de jamais me prendre soin de mes dents. Tôt ou tard, je le payerai et tout le corps en pâtira. Je peux solliciter à outrance mon foie en me gavant de 1000 desserts. Il viendra un moment où il ne supportera plus, le pauvre, et ne sera pas très agréable ni pour lui, ni pour tout le corps. Avoir soin les uns des autres. Paul le souligne aussi. Veillez à ce que l'autre ne porte pas trop, peut-être à cause de ma négligence ou de mon égoïsme, mais manifestez ce soin, manifestez cette attention. C'est cela aussi, être riche les uns des autres. Et ce n'est pas juste quelque chose d'utilitaire, quand on a soin des uns des autres et qu'on le manifeste. Parce que quand on fait ça, on se relie plus encore. Quelque chose se passe, quelque chose s'exprime, est reçu. Être riche les uns des autres, c'est devenir aussi, par la grâce de Dieu, riche de relations. Alors voilà, j'ai bien conscience que ça fait partie des enjeux hein, qui sont devant nous, vraiment. Mais nous avons besoin de cela. Et Paul lit toute la gerbe en nous montrant le chemin par excellence. Et nous savons que le chemin par excellence de tout cela, c'est l'amour à l'image de celui du Christ. Et c'est pour ça que Paul écrit 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour à la suite d'1 Corinthiens 12 et pour le couronner. Et on trouve aussi quelque chose de ce lien mutuel et de cette autre sagesse de vie que nous propose l'Écriture. Je relis quelques textes avec vous sur cet amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour ne succombe jamais. Je crois qu'à cette lumière, nous avons tous un beau chemin à faire encore. Un bon et bon chemin devant nous. Mais il vaut la peine de le tracer pour savoir vers où aller. Et je nous souhaite de pouvoir avancer ensemble dans des lignes qui ressemblent un petit peu à cela et honorer le Seigneur qui nous veut riches les uns des autres, les uns avec les autres, les uns par les autres. Que Dieu nous aide vraiment à avancer pas à pas avec persévérance et vigilance dans ces lignes-là. Je vous invite à prier, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment reconnaître la sagesse et la beauté de tes projets pour nous. Mais nous voulons aussi, Seigneur, te dire combien nous avons besoin de toi pour pouvoir entrer dans cette sagesse, entrer vraiment dans cette réalisation. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous laisser vraiment saisir par ce que ta parole nous dit, et que nous sachions aussi adapter, Seigneur, notre manière d'être les uns avec les autres, pour que nous puissions vraiment honorer ton projet. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te demandons pardon pour les endroits où nous ne fonctionnons pas comme pour vraiment bien réaliser ce projet. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, par ton esprit en nous, à vraiment trouver les bonnes dispositions. Et je te prie vraiment que nous puissions nous encourager les uns les autres, et grandir ensemble vers ce que tu désires pour nous, pour ton Église. Seigneur, nous sommes devant toi. Veuille nous animer de ton amour, de ton esprit, des dispositions qui étaient en Jésus. C'est en lui que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.